Dans cet épisode, ce n'est pas une, mais deux intervenantes que j'ai l'honneur d'accueillir. D'une part, Anna Clavel, qui est experte en sociologie des activités physiques, sportives et artistiques. Elle est également doctorante en STAPS, avec une thèse sur la gestion humaine des risques lors des grands événements sportifs. Elle nous apportera son expertise sur tous les sujets liés au profil des sportifs outdoor. Laure Desmures est enseignante en EPS, agrégée, master de recherche, sport, langage et intervention, mention socio-histoire. Elle intervient également en STAPS sur les aspects composantes énergétiques et forces et est spécialisée dans l'athlétisme sur le trail et l'histoire du sport. Laure est aussi une athlète pour la team trail Simalp. Et toutes les deux, elles nous parleront des sujets de sociologie pour l'instant outdoor. Salut Laure, salut Anna. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial par rapport aux autres épisodes qu'on a l'habitude d'entendre sur le podcast L'Instant Outdoor. On est à trois à réaliser cet échange. Comment allez-vous?
Bonjour François, bonjour à tous et à toutes. Ben, merci beaucoup déjà pour l'invitation et puis ça va très bien puisque ça va être un sujet qui nous touche particulièrement avec Laure et on a bien envie de répondre à vos questions.
Bonjour à tous, je pense que Anna a tout dit, donc il fait encore beau en cet été indien, donc tout va bien.
Eh bien écoute, c'est génial. Merci à vous deux d'avoir accepté d'être les intervenantes spécialistes de l'histoire un petit peu et puis de la sociologie aussi sur le monde du trail en France. Alors, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, le monde du trail évolue, il grandit, chaque année il y a de plus en plus de trailers, mais d'où est-ce qu'il vient un petit peu ce sport et comment est-ce qu'il a évolué au fil des années?
Alors oui, effectivement, c'est une pratique qu'on dit relativement récente hein, parce que elle a pris un petit peu son expansion durant ces 10 dernières années, particulièrement en termes aussi bien de nombre de pratiquants que d'événements sportifs organisés, peut-être aussi de médiatisation, même si on a vu que dans le dernier stade 2, l'UTMB n'a fait que 25 secondes, on peut considérer quand même que la médiatisation, en tout cas, est spécialisée de plus en plus importante. Mais effectivement, elle tire un petit peu son histoire à travers, on peut dire peut-être différentes activités, que ce soit à la fois les activités de pleine nature, la montagne, mais on le voit également avec le nombre de compétiteurs qui grandit, une référence également à l'athlétisme et un petit peu aux activités stade, course hors stade, compétitives au sens sport compétitif du terme, organisées depuis les années 70. Le premier baby running, on va dire, ou baby boom en tout cas, sur ce running. Et puis pour le trail, le deuxième se situe plus vers les années 2000 par rapport à ça. Donc il tire un petit peu cette activité, son ancrage de mobile, de motif, et ça va être notre thème du jour, un petit peu différent de la part des pratiquants et puis également des organisations, très certainement.
Oui, il y a certains sociologues qui parlent, il y a Jean Viard notamment qui aborde justement cette question du trail comme pas un phénomène vraiment de mode, entre guillemets, mais quelque chose une transformation vraiment structurelle de la course. Il parle même de troisième révolution, donc tout l'intérêt aussi de connaître un petit peu, même si on voit la complexité aussi finalement de l'activité trail et puis des profils de trailers, d'essayer de faire un petit point effectivement d'un point de vue socio-historique sur ces pratiquants-là qui...
Alors les pratiquants justement, c'est des gens qui sont... parce que historiquement, on disait souvent que... c'était des gens qui avaient déjà une certaine expérience, qui pratiquaient la course à pied, des fois sur des distances comme le marathon, et qui ensuite, une fois que les performances commençaient à réduire, passaient sur le trail. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été vérifié? Est-ce que c'est une légende urbaine? Et est-ce que c'est toujours vrai si c'était vrai auparavant?
Alors, la pratique trail, quand elle a commencé, alors c'est dur de situer un petit peu son commencement, mais les premières compétitions, on les date, la Western, elle date de 77, le cross du Mont-Blanc des années 80, le marathon des sables, on va dire que c'était plus des puristes qui pratiquaient, plus des montagnards, des gens qui ont envie de chercher un petit peu l'aventure. Et donc, c'est une population quand même un petit peu différente de celle qu'on trouvait quand même sur marathon. C'est un petit peu plus récemment qu'on a un petit peu associé, effectivement, associé ou opposé cette activité hors stade ou stade, justement, à la pratique trail. Et voilà, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, on ne les considère plus maintenant vraiment comme opposés parce qu'effectivement, on voit toute pratique et tout pratiquant, même le triathlète, hein, voilà, le montre et le souligne un petit peu cette association là dernièrement, UTMB, Ironman. Le triathlète, le coureur sur route et marathon, etc., vient volontiers sur les sentiers. Et inversement, parce qu'effectivement, on a de plus en plus une pratique croisée et que l'un sert à l'autre. Et voilà, ça a toujours été un petit peu le cas ces 10 dernières années. Avant, voilà, c'était plus des pratiquants qui n'avaient pas vraiment les mêmes sources de motivation.
C'est vrai qu'on voit là actuellement une forme de segmentation un peu avec une multiplication aussi des formes de pratiques et puis de trail qui va là aussi enrichir finalement ce pool de trailers. Et on voit, comme le disait Laure, cette forme aussi de porosité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une hétérogénéité mais aussi des pratiques communes et peut-être plus de passerelles entre guillemets entre les pratiquants qu'il y avait précédemment.
D'accord, donc ce que je comprends, c'est que le trailer n'est pas que trailer.
Parmi, en fait, en tout cas, parce qu'il y a aussi cette difficulté un petit peu à recenser. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelques recherches qui se multiplient aussi, hein, scientifiques. Il y a aussi des enquêtes qui sont menées, notamment par des sponsors du marketing. Tu parlais tout à l'heure lors de la médiatisation. C'est vrai qu'on voit aussi ce type de recensement avec des limites aussi, mais des apports, en tout cas, des éléments qui peuvent nous servir à faire un point. Mais dans ce qu'on voit, en tout cas, c'est que souvent les trailers, notamment dans une enquête là, dans un mémoire qui avait été fait par Delphine Troyon, il y a cette idée quand même de multi-activité et finalement de trailers qui peuvent effectivement être sur plusieurs formes de pratiques. Tout à fait.
Dans un entraînement croisé, par exemple, on voit le dernier rapport. Notamment de la jeunesse et des sports et des sports de montagne, montrent effectivement que les pratiquants vont multiplier un petit peu leur domaine d'entraînement, par souci de loisirs, par souci d'efficacité et puis par souci de santé également, parce qu'effectivement la course à pied, c'est quelque chose qui est quand même relativement traumatisant, le trail également. Donc effectivement, pour combiner un petit peu et aller jusqu'au bout de sa performance tout en maintenant une certaine condition physique et une certaine santé en termes de traumatisme, les pratiquants vont aller vers un certain entraînement croisé, donc avec du vélo, de l'alpinisme, du ski, etc.
On les qualifie souvent de multi-actifs justement dans les enquêtes telles qu'on peut le voir actuellement aussi sur ce domaine.
D'accord, donc ça veut dire que si je fais du trail, c'est mon sport principal, mais que j'utilise le vélo comme moyen aussi d'entraînement et puis pour varier, pour développer certaines compétences et capacités physiques, je suis dans la catégorie des multi-actifs.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on va voir, alors tu le disais, hein, historiquement, on disait que c'était souvent après carrière, mais quelque chose qui permettait justement de donner suite. Là, on voit quand même que dans ces pratiques-là, il y a cette idée de multi-activité, c'est-à-dire des personnes qui vont effectivement avoir pratiqué différentes formes de trail, mais pas seulement aller sur des sports de nature, être vraiment des pratiquants dans différents secteurs d'activité physique et sportive.
Pour comme autant, le disait... oui. Chaque profil, on va dire, de trailer va avoir... un ancrage, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un passé un petit peu de montagne va reprendre cet entraînement croisé avec la montagne. Un triathlète va davantage aller, hein, et c'est vraiment le paysage qu'on voit en ce moment dans les témoignages. un triathlète va davantage aller vers le vélo, par exemple. Donc, effectivement, alors le lieu hein, également de résidence va impacter beaucoup. Hein. J'imagine qu'en Bretagne, le ski, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, on a cette corrélation entre peut-être un petit peu le passé et puis sportif, et puis cet entraînement croisé qui va se coupler avec celle du trail.
Bah effectivement, le seul téléphérique qu'on a, c'est pour passer au-dessus du port de Brest. Donc, ça va être un peu compliqué d'aller sur les sommets bretons. est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique au trail ou finalement, c'est au trail et au sport outdoor, aux pratiquants de sport outdoor? Ou par exemple, des footeux, des gens qui font du handball, on retrouve aussi cet entraînement avec d'autres sports.
Alors, non, je pense que c'est quelque chose. Alors, on manque un petit peu. Hein. Enfin, moi, pour être enseignante en STAPS, là, à Grenoble, on voit bien que les pratiquants outdoor sont quand même, d'une manière générale, plus centrés vers moult activités. C'est-à-dire, on reste quand même sur l'esprit outdoor, globalement. D'accord ? L'idée outdoor est principalement quand même sur des aspects assez énergétiques. Alors même que quand on se centre un petit peu sur les sports co, sur les sports duels et opposition, mais dans un champ, on va dire, collectif, eh bien, on est plus sur, on reste centré sur cette activité, particulièrement à haut niveau. Hein, parce que, et même, on va au-delà, hein, la plupart des étudiants là, que j'ai en ce moment, sur les sports sportifs de haut niveau, ils n'ont pas forcément le droit de pratiquer d'autres activités, notamment à risque, que celles qu'ils font en compétition. Donc, c'est quelque chose qui est très centré. Alors, si ce n'est qu'on enlève quand même tout ce qui est préparation physique, là, qui est une activité et une pratique qui est abordée dans quel que soit le sport pratiqué en compétition.
Mais je dirais aussi qu'effectivement, il y a ce rapport quand même à l'espace, au temps. Il y a des choses quand même qui sont spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément effectivement dans les activités que tu citais, hein, football ou ces activités de sport collectif notamment. Qui sont assez finalement spécifiques et qui définissent aussi des modes d'engagement, un goût sportif un petit peu peut-être différent, même si effectivement ce recul-là, il faudrait peut-être en avoir davantage. Mais en tout cas, on voit bien quand même cette différence d'identité, si on peut appeler ça comme ça.
Ça ne veut pas dire pour autant que lorsque la pratique compétitive s'arrête, ou en tout cas diminue pour ces sports plus collectifs, etc., ces pratiquants ne vont pas se mettre à la course à pied, au trail, et aller chercher d'autres motifs d'agir que celle de l'opposition avec l'autre.
C'est vrai qu'on en voit beaucoup, hein, des notamment footballeurs, parce que c'est le public qui est le plus peut-être représenté en France de sportifs, qui, une fois leur carrière professionnelle passée, vont chercher comme ça des défis d'ultra-trail. On en croise assez régulièrement quand même, donc ça fait sens.
On en croise régulièrement aussi parce qu'effectivement, dans leur pratique, ils sont amenés à avoir une méthode d'entraînement qui ressemble relativement au fractionné, à l'intermittent, et que finalement, ils éprouvent, quand ils se présentent particulièrement sur certaines compétitions ou sur certains, on va dire, parcours d'entraînement, ils ont des qualités physiques, déjà des qualités aérobies notamment, qu'ils ont pu développer, et forcément, ça les amène à truster un petit peu les premières places aussi, et c'est quelque chose qui est plaisant, c'est un motif d'agir, évidemment.
Alors, justement... la transition est toute trouvée. Qui sont les trailers? Est-ce qu'on peut définir un public vraiment précis? Est-ce qu'il y a une espèce d'avatar qui est fait sur le trailer? Actuellement, est-ce qu'on a ces données-là?
Alors, sur les principales, on va dire... tendance, ce sera difficile parce qu'effectivement, comme le disait Laure tout à l'heure, il y a aussi des spécificités en fonction des publics et qu'on peut pas finalement uniformiser parce qu'il y a aussi plusieurs motifs d'agir. Mais il y a quand même des grandes tendances qui émergent. avec l'idée qu'effectivement, pour l'instant, en tout cas, dans ce qu'on voit des enquêtes qui sont menées, il y a cette volonté et ce point commun entre tous les trailers qui est cette volonté de retour à la nature, ses valeurs, on va dire, ses préoccupations écologiques. Les grandes tendances également, c'est la féminisation, Laure en parlait, et puis il y aura un numéro, ou en tout cas un moment dédié vraiment à cette question-là, avec peut-être là aussi des spécificités qu'on pourra aborder un petit peu aujourd'hui et développer par la suite. Il y a cette dimension aussi intergénérationnelle qui se développe, et notamment par la multiplication aussi des formes de courses, comme on peut le voir. Et après, il y a aussi des points communs en termes socio-économiques, notamment, où on voit qu'effectivement, entre ces trailers, on est plutôt sur des catégories socio-professionnelles élevées, en tout cas plus, comme pourraient le dire donc ces enquêtes-là. Il y a vraiment ces points communs et ces éléments de convergence qui peuvent définir effectivement ces tendances, entre guillemets, chez le trailer.
Et alors... Quand on fait un sondage comme ça de savoir pourquoi les gens font du trail, donc ils disent que c'est pour un retour à la nature, est-ce qu'il y a une différence entre les distances qui vont être pratiquées ou pas? Pourquoi est-ce que quelqu'un va aller faire un ultra trail? Est-ce qu'on a ces informations-là, par exemple?
Alors, il y a beaucoup de différences, notamment là, on peut commencer un petit peu par rapport à l'autre podcast qui viendra un petit peu plus tard. Il y a des différences hommes-femmes, ça c'est sûr, hein, on le voit bien. L'UTMB, on avait moins de 10%, hein, j'ai entendu, de femmes qui étaient présentes en compétition sur ce 170. Donc, et là, voilà, c'est déjà deux profils différents. La femme, l'homme, d'une manière générale, la femme va peut-être aller plus vers le trail, le loisir, et organiser des compétitions sur des distances un petit peu plus courtes. Donc ça, c'est voilà, présent dans un peu tous les témoignages, les enquêtes qu'on a pu voir. Les hommes vont aller vers plus de compétitions, de dépassement de soi, mais d'affrontement à l'autre, et vont rechercher plus le défi, donc vers le toujours plus. On l'a vu, hein. Alors il y a eu des femmes, hein, on pense à Audrey Tanguy, qui ont fait des défis en off, hein, pendant ce confinement, parce que c'était un petit peu la plus-value de tous les défis. Mais beaucoup d'hommes, quand même, sont restés sur cette médiatisation et ce toujours plus, aller chercher le kilométrage, etc. Donc voilà, il y a déjà une petite distinction là, en termes de profil, pour revenir un petit peu sur l'axe précédent, et en termes de choix de distance de course, pour répondre un petit peu à ta question par rapport à ça, d'une manière générale. Et puis, il y a un gros, on va dire, critère qui intervient, c'est aussi le temps passé à s'entraîner. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Le temps, alors aussi bien pour les hommes, les femmes, les plus jeunes, les moins jeunes, hein, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa pratique. Et les enfants, hein, tu le sais, les enfants vont apporter une petite contrainte par rapport à ce temps et cette organisation. pour le choix des trails courts ou des ultra-trails également. Sans parler évidemment ensuite... Hein, de tout l'aspect que développe Ultra Trail, hein, sur l'aspect un peu héroïque, l'extraterrestre, on va dire, que l'homme se trouve en lui, ou la femme, en pratiquant l'Ultra Trail. Mmh. Là, c'est encore autre chose.
Il y a beaucoup de valorisation de l'ego dans le fait de terminer un Ultra Trail. Si on reprend un peu la pyramide de Maslow, est-ce que c'est pas ça finalement que les ultra-trailers vont chercher, même s'ils n'osent pas toujours le dire et se l'avouer, est-ce que finalement c'est pas ça qu'on va chercher?
Dans ce besoin, justement, ce besoin de souligner un petit peu, effectivement, l'ego, l'autonomie, parce que l'ultra-trail aussi, c'est un petit peu une stratégie de course, une stratégie qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait construire dans une entreprise, par exemple. Hein, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'activités autogérées un petit peu. Donc, c'est quelque chose, un accomplissement, mais un accomplissement qu'on va chercher de plus... en plus de façon autonome, etc. Donc oui, peut-être.
Il y a certains anthropologues, là, pour rebondir un peu sur ton terme d'avatar, qui parlent justement de l'ultra-trail et des spécificités comme l'avatar vraiment de la société de la performance, c'est-à-dire c'est se produire soi-même, aller vraiment, voilà, au regard, enfin, vous parliez là tout à l'heure de l'ego, c'est quelque chose qui est vraiment spécifiquement, on va dire, nommé dans ce type de course et relevé.
Ça fait beaucoup de sens parce que quand on, pour prendre encore cet exemple de l'UTMB, tout le monde connaît l'UTMB. Par contre, si on dit j'ai fait la TDS, qui est une course qui est aussi plus technique que l'UTMB, les finishers terminent à peu près dans les mêmes, enfin pour le top classement, ils terminent à peu près dans les mêmes temps. Donc on peut dire qu'en termes de difficulté, c'est similaire. Pour autant, socialement, terminer l'UTMB, on est placé sur un piédestal. Terminer la TDS, on est inconnu aux yeux du grand public. Donc, il y a toujours cette valorisation de la distance suprême.
Oui, il y a toujours cette notion de distance suprême, mais pas que, parce que finalement, le Tour des Géants, la Swiss Peak, etc., pourraient aussi être valorisés à la même manière. Il y a aussi cette notion de spectacle sportif qui se développe de plus en plus en trail. Et effectivement, alors aidé par la médiatisation, hein, et l'UTMB, finalement, c'est un petit peu ce qui a été choisi. Alors, ça aurait pu être une autre course, mais c'est ce qui a été choisi parce que ben, peut-être que, justement, ces figures héroïques, voilà, que ce soit à la fois Kylian Jornet, alors maintenant, voilà, Xavier Thévenard, François Denne, etc., ont choisi d'investir ces courses avant d'autres. Et que, voilà, ce spectacle sportif, c'est... ben voilà, c'est construit autour de cet événement, l'UTMB, plus que la TDS. Ouais, j'ai vu que la TDS n'était pas retransmise à la télévision, c'était mardi, trop tôt. Et donc, du coup, effectivement, voilà, il y a cette idée. Et donc, les pratiquants vont rechercher aussi ça. Alors, les pratiquants, que ce soit la masse, que ce soit les élites, vont suivre un petit peu en instantané. Alors, pour autant, avec un petit bémol, parce que là, Trail Endurance Mag, ils ont sorti effectivement les vidéos les plus vues, et c'est, je crois, un million pour le dernier arrivant là, de l'UTMB. C'est la vidéo la plus vue. Donc, pas que, en fait. Hein, le spectacle sportif, c'est les élites, mais il y a aussi un côté, j'ai envie de me retrouver dans les coureurs. Et voilà.
Je pense que c'est autour. C'est autour de Smith aussi du héros, c'est-à-dire voilà, le héros sportif dans la performance, mais c'est aussi une performance pour ceux qui arrivent, comme tu le dis, Laure, un peu en dernier aussi de la course, qui sont des héros un peu du quotidien, ou en tout cas que les gens peuvent aussi, dans lequel ils peuvent se reconnaître. Et ça, c'est important. Après, le rôle de la médiatisation, effectivement, il est très important, et cette construction autour des courses aussi, de ce mythe un petit peu aussi des ultra-trails, joue pour beaucoup effectivement au développement de certaines courses par rapport à d'autres.
C'est vrai que cette vidéo, il y avait vraiment un esprit dernier des Mohicans qui arrive, il sort des tranchées, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Enfin, il y a vraiment tout un espèce d'ambiance, une espèce d'esprit aussi autour de cette vidéo là. Donc c'est pas surprenant si qu'elle est
Une ambiance, c'est au même titre que, pour reprendre un peu le spectacle sportif, cette année, les élites se sont présentées un petit peu comme dans un ring, on a trouvé. En tout cas, ils ne se sont peut-être pas présentés comme ça, ils n'avaient peut-être pas des consignes particulières, mais le live trail, enfin le live télévisuel, l'a présenté comme tel. Et donc ça nous a fait penser un petit peu au show qu'on voit un petit peu... aux States, hein, sur le basket ou le catch, ou voilà, cette présentation, c'était voilà, original.
Ça fait assez écho à voilà, certains aussi, alors en psychologie ou en sociologie du sport, qui parlent par ces ultra-trails aussi, de retour à des rites initiatiques, des transformations aussi, finalement, de ces rites qui n'existent plus dans la société, mais qu'on va retrouver aussi dans le spectacle, dans le domaine sportif, et qui montrent comment l'homme aussi peut franchir des étapes, des caps, et pouvoir se dépasser. Et ça, je trouve que c'est assez éclairant aussi sur, voilà, sur nos sociétés, la manière dont on fonctionne, ce qui nous intéresse, et ce qui voilà aussi faire finalement l'importance du trail, ou en tout cas la façon dont il va être reçu aussi par les spectateurs et par les personnes qui assistent à ce spectacle.
Alors justement, on parle beaucoup de l'UTMB depuis le début, mais maintenant on a aussi une augmentation aussi du nombre d'événements qui est assez incroyable. Est-ce que quelles sont les limites en fait de ce nombre d'événements qui augmente? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de plus en plus de courses qui arrivent et est-ce que ça va pas prendre entre guillemets la place des courses routes ou d'autres événements de sport outdoor?
Alors là, on sait pas trop si c'est la poule ou l'œuf. En tout cas, c'est un cercle un petit peu vertueux, vicieux, c'est pas trop non plus. Effectivement, il y a une augmentation de pratiquants, une augmentation d'événements, je crois 2019, parce que là, on a été un petit peu secoué par 2020-2021, mais 2019, c'est un petit peu moins de 4000 événements en France. Donc, est-ce que ce sont effectivement les organisateurs, les municipalités, on va dire les organisateurs de trail qui investissent de plus en plus face au nombre de pratiquants, ou alors les pratiquants qui, devant le nombre d'événements organisés, vont de plus en plus aller goûter à la compétition, parce qu'en plus, ça va de 5 km à l'ultra maintenant. Donc voilà. Donc là, il y a, en fait, François, tu as donné deux choses différentes. Déjà, le nombre d'événements et puis le nombre de pratiquants. Mmh. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment en augmentation, les deux. Et quelque chose qui rentre un petit peu en corrélation, parce que même s'il y a cette pratique de loisir, il y a quand même un esprit de compétition dans cette notion de trail. Et voilà, on le voit avec tous ces événements qui sont organisés. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui interpelle, qui interroge. Alors, porter concurrence à la route, oui, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'événements de trail qui sont organisés et moins, un tout petit peu moins, alors pas un tout petit peu moins, mais de courses sur route, c'est-à-dire que ça s'est un petit peu stagné alors que les événements trail se sont largement développés. Donc, pourquoi les opposer déjà, puisque les deux sont possibles. Et puis, quelque part, c'est... c'est le destin sur cette activité qui est investie par différentes, on va dire, instances, à la fois les municipalités, les organisations, les marques maintenant, les sponsors, etc. Donc, il y a pléthore d'organisateurs qui proposent respectivement leurs compétitions et leurs épreuves. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle c'est multiplié actuellement.
Je crois qu'on le voit aussi avec cette question-là de savoir si c'est l'offre, la demande qui va agir l'un sur l'autre, c'est effectivement un peu inextricable, ou en tout cas c'est difficile de trouver la réponse. Mais l'explosion des courses, des modalités de courses, on voit aussi que ces enjeux, en tout cas par les organisateurs, notamment par, t'en parlais tout à l'heure Laure, les territoires, les collectivités qui vont aussi s'emparer finalement de cette question du trail au-delà des courses, mais dans l'idée de développer une offre touristique, d'être vraiment sur d'autres enjeux qui dépassent finalement la simple activité, en développant aussi des stations trail, en développant toutes ces activités qui vont être autour même de la course en tant que telle, c'est aussi un des enjeux forts qui explique ce développement-là. Mais on voit vraiment en tout cas la force aussi de ces organisateurs pour développer un nombre de courses importants et pouvoir se faire aussi connaître et avoir aussi un créneau, on va dire, pour ces pratiquants.
Mmh. C'est sûr que ça se développe quand même à vitesse grand V. On voit aussi toutes les startups aussi autour de la Sportech qui grandissent, qui arrivent, qui se développent. Et puis, c'est toujours intéressant aussi de voir ce petit monde aussi qui évolue, des jeunes qui ont des idées qui sont vraiment fabuleuses. Et puis, j'en recevrai plusieurs dans le podcast.
Qui font aussi figure presque pas de héros, mais en tout cas qui ont cette image-là de partir finalement de leur pratique aussi et de leur expérience pour apporter d'autres dimensions à la pratique trail, que ce soit technologique, que ce soit sur la manière aussi, Red Light par exemple, sur cet exemple aussi d'entreprises qui fonctionnent. Enfin, il y a plein de choses aussi à tirer ou en tout cas qui peuvent être assez éclairantes pour le développement de cette pratique-là actuellement.
C'est vrai que c'est un vrai marché. Ouais. Et un vrai marché économique. dans le monde du sport et puis plus largement dans le monde du marché du travail, de l'économie. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de territoire que Anna a utilisé, un territoire particulier. J'imagine que toi aussi, François, tu dois avoir cette notion de territoire en Bretagne. À Grenoble, là, effectivement, on a l'UT4M, et l'UT4M, c'est un événement qui va un petit peu brasser et corréler plusieurs instances, alors à la fois politiques, à la fois, effectivement, en termes de sponsors, ou etc., mais aussi qui va mobiliser, ben, là, ça a été hein, Sam Vergès, je ne sais pas si il viendra à un moment donné, mais voilà, toute son équipe, et Stéphane d'Outrelot, qui se sont mis, donc une instance scientifique aussi, qui se sont mis autour de cet événement pour ben, faire avancer un petit peu ben, cette pratique. Donc voilà, c'est un enjeu territorial aussi, à la, voilà, au-delà de, voilà, de cet aspect économique, politique peut-être, éventuellement. Voilà. Et donc c'est une identité, on dirait, également, qui peut être voilà, présente sous différentes régions, sous différents pays, parce qu'il y a de plus en plus de nationalités hein, et de pays qui développent sa pratique. Donc voilà, ouais, cette notion de territoire et d'identité, elle est aussi importante en trail.
Ah, si, sur la Bretagne, on a Destination Cœur de Bretagne qui a créé des pistes, des parcours de trail en plein cœur de Bretagne, parce que quand on pense Bretagne, on pense tout de suite à la mer plutôt que, qu'à la terre. Et puis du coup, il y avait une vraie volonté justement de renvoyer aussi les gens vers le cœur de Bretagne, donc le centre, et puis de proposer aussi plein de parcours comme ça. Donc il y a un vrai aussi enjeu territorial à ce niveau-là qui est en train d'émerger, qui est en train de se dynamiser. Et moi, je trouve ça plutôt chouette de toutes ces initiatives qui sont organisées et puis pour faire découvrir en fait les territoires aux gens qui sont des fois même juste à côté et qui ne connaissent pas.
Et je voyais même sur des régions, bah, Auvergne-Rhône-Alpes, la manière dont ils ont aussi médiatisé cet été les sites sur lesquels les équipes de France aussi s'entraînent. Enfin, il y a toute une médiatisation aussi qui va forcément aussi faire un appel d'air, entre guillemets, pour du tourisme, pour du développement, effectivement, de ce que tu disais, hein, de découverte de territoire. Enfin, c'est des très forts enjeux, je pense. Et c'est en ça qu'on voit aussi que cette pratique trail, finalement, et de sa complexité, ça en fait vraiment un éclairage aussi sur plein de... finalement d'éléments. Tu parlais d'économie, politique, sociale, enfin c'est un vrai fait social total, quoi.
Et alors justement, on a parlé un petit peu du Covid de cette année 2019 voire même 2020 qui a été 2020 plutôt qui a été vraiment, vraiment importante en termes d'impact sur le sport des Français et puis même de façon même internationale. Pour autant, la course à pied, c'est un des seuls sports qu'on pouvait continuer à pratiquer en faisant le tour de son pâté de maison autour de ses 1 km. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié ou est-ce que c'est encore un peu trop récent sur l'impact au niveau de l'augmentation du nombre de pratiquants qui va y avoir ?
Alors, je trouve que la question est d'autant plus intéressante que, donc pour ma part, moi, je ne suis pas à votre niveau de pratique de trail, mais justement, je fais une petite enquête auprès de groupes qui sont formés justement, notamment pendant le Covid, autour justement de cette pratique trail, avec hier notamment une petite enquête auprès donc d'un groupe qui est pas très loin de chez moi et qui a vu ses effectifs exploser. Alors, par du distanciel au départ, donc c'est deux personnes qui pratiquaient, qui ont développé une page Facebook, qui ont développé sur les réseaux sociaux justement cette petite communauté en proposant des parcours à distance, des défis notamment sous forme de défis. Et on voit là que cette année, ils sont obligés même presque de refuser du monde maintenant que c'est en présentiel entre guillemets ou de faire plusieurs groupes. Enfin, ils sont presque dépassés finalement. Par la pratique qui s'est créée et ces communautés qui se sont créées pendant le Covid. Donc, sans avoir forcément non plus de recul ou d'analyse vraiment, ou en tout cas de résultats de recherche à donner, on voit bien qu'en tout cas, dans les petites enquêtes qu'on mène, il y a cet effet Covid sur la pratique de trail, sur cette envie aussi de se maintenir en forme, de bien-être, parce que c'était aussi une des complexités, je pense, des personnes qui étaient... en télétravail ou à distance, ou qui étaient confinés tout simplement, mais comment finalement aussi peut-être cette période a permis à des personnes de se remettre à l'activité aussi, parce qu'il y en a pas mal que, voilà, avec qui j'ai pu discuter, mais d'autres aussi de trouver d'autres formes de pratiques. Enfin voilà, je trouve que c'est en tout cas des pistes intéressantes à creuser, parce que dans ces petits groupes au départ informels qui finalement deviennent presque des clubs officiels, c'est assez intéressant de voir cet effet justement du Covid sur ces pratiquants. Et sur les origines en plus très hétérogènes de ces pratiquants, c'est-à-dire plein de motifs finalement qui se retrouvent pour faire des collectifs. C'est assez riche, je trouve, ouais, d'enseignement en tout cas pour s'interroger et faire des enquêtes de ce type-là.
C'est un petit peu tôt, je pense, encore pour avoir le résultat des enquêtes, parce que voilà, l'UGA a fait des enquêtes, toutes les universités, hein, globalement, il y a eu plein de mémoires qui sont parties dessus. Donc déjà, ça a été un changement. des mémoires, des recherches qui ont été intégrées dans comment finalement rendre active l'inactivité pendant la période de confinement. Mais ouais, globalement, c'est ce qu'il en ressort, les premières analyses qui en ressortent, c'est que ça a changé beaucoup de modes, on va dire, d'entraînement, à la fois pour les gens qui ne pratiquaient pas forcément, parce que ben, on en revient à cette notion de temps, hein, un petit peu plus de temps pour pratiquer, donc ça a fait émerger voilà, une activité d'une manière générale, et puis pour les gens qui pratiquaient, et on a hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années, mais il y a eu un changement du mode d'entraînement, parce qu'il y a eu des entraînements qui étaient, alors on parlait d'entraînement croisé tout à l'heure, là effectivement un mode d'entraînement différent à tenir sur peut-être une plus courte durée, mais également une approche par la préparation physique, par voilà, on a eu pléthore de vidéos sur les crossfit, sur la musculation, sur la préparation physique, le renforcement, donc ça a joué très certainement. Et les performances, alors ce qui est qui serait intéressant d'analyser, c'est l'augmentation justement de peut-être des performances, alors par l'intermédiaire des points intra, par l'intermédiaire des temps relatifs par rapport aux autres années, pour voir un petit peu l'impact que ça a eu, ce changement d'entraînement qui peut être positif, hein, finalement, sur les performances, au même titre qu'elles l'ont été sur des personnes qui ne pratiquaient pas forcément l'activité.
Mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi la pérennité de leur engagement. Parce que c'est vrai que là, c'est une période quand même très spécifique, et voir comment ces engagements-là aussi vont se transformer sur du moyen terme, long terme, sous quelle forme de pratique aussi. Parce que là, pour l'instant, effectivement, on voit quand même une augmentation, mais sans forcément avoir de résultats scientifiques, mais une augmentation de ces pratiques. Et il faut voir...
La période a été assez longue pour créer des habitudes, pour créer des routines, pour créer une envie, pour créer une motivation et la maintenir après malgré le retour des contraintes, des différentes organisations que l'on avait par le passé.
Et on pourra en parler dans un épisode de l'Instant Outdoor dans un an et demi quand toutes ces études seront terminées.
Et l'importance aussi des réseaux sociaux sur ces formes de pratiques et sur la manière dont justement ça a pu, t'en parler tout à l'heure Laure, hein, permettre ce développement aussi, ou en tout cas cette arrivée de nouveaux pratiquants dans le trail.
Ça c'est quelque chose qui a été constaté par tous les plus grands youtubeurs, etc., qui ont vu leurs chiffres augmenter de façon considérable sur la consommation en fait de vidéos, de... parce que les gens avaient plus de temps, en fait, étaient chez eux pour consulter ces contenus-là. Donc ça ne me surprend pas que ça a dû être
Ce qui est déjà une caractéristique des pratiquants aussi de trail qui partagent beaucoup des blogs, enfin qui sont déjà initialement sur ces réseaux sociaux, mais qui, par cette période-là, ont aussi vu leur vue, justement, multipliée, en tout cas augmentée.
Alors justement, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la pratique du trail? Est-ce que justement tu l'as un petit peu dit là déjà, Anna, le trailer aime bien partager, mais jusqu'où, pourquoi, c'est quoi les tendances
par rapport à ces réseaux sociaux? Là aussi c'est un petit peu difficile de répondre d'un point de vue aussi scientifique, mais l'idée, en tout cas de ces réseaux sociaux, de ce qu'on peut en voir, c'est quand même qu'il y a effectivement ce partage. Alors on est toujours autour des figures entre guillemets du trail qui partagent beaucoup leur performance, leur activité. Et là aussi, on voit ce partage-là. Mais il y a aussi dans des communautés sur les espaces, donc sur les réseaux sociaux, des partages qui permettent un développement de la communauté de ce point de vue-là. Parce que le trailer, effectivement, il y a ce rapport à la nature et à l'écologie qui est spécifique. Mais en même temps, il y a cette hyper-connectivité qui... Enfin, Laure va peut-être aussi pouvoir développer cette notion-là un peu sur ces... finalement, ces paradoxes. Mais il y a aussi cette idée d'hyper-connectivité. Alors, par le matériel qu'on porte aussi, mais par cette présence aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, effectivement, c'est un des premiers paradoxes, parce qu'il y en a tellement d'autres du trail, mais c'est ce qui rend riche la discipline, quelque part. C'est que, voilà, ces médias sont de plus en plus, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, hein, on est constamment en train d'être sur les réseaux, de partager, mais aussi d'avoir effectivement, de montrer. On renvoie un petit peu aussi à l'ego, hein, dont on parlait tout à l'heure, François. C'est un mixte, en fait, hein, ce besoin de se valoriser soi-même individuellement, mais aussi au regard des autres et avec l'autre. Donc, il y a déjà un petit paradoxe, là, individuel collectif. Et donc, du coup, ces réseaux sociaux, ils nous permettent, mais les réseaux sociaux... sont investis également par, alors on va parler un petit peu des influenceurs, hein, sont investis également par certaines marques. Et effectivement, ça renvoie un petit peu à ce marché, hein, du trail où les marques, les sponsors vont miser sur des athlètes, mais pas que, des influenceurs. Du coup, ça, c'est quand même un nouveau métier. Alors, pas forcément que dans le trail, hein, on est d'accord, mais ça investit le monde du trail. Ça touche le monde du trail d'une manière générale. Donc voilà, c'est quelque chose qui va orienter un petit peu la discipline. Alors, peut-être pas en termes, je dirais, de performance, mais plus en termes d'économie, de marché sur cette discipline trail. Mais voilà, ça fait partie des paradoxes. Il y en a d'autres, hein, et c'est pour ça que cette discipline, voilà, on en a parlé, les motifs d'agir liés à la montagne, il y a la compétition et à l'affrontement de l'autre. Et ça, cette hyper-connectivité, ouais, c'est quelque chose qui est intéressante, parce que le trail, théoriquement, on, comme la course à pied, on n'a pas besoin d'un gros pouvoir d'achat pour la pratiquer. Hein. Mais elle se rend justement avec tous les gadgets, ou plus, en tout cas, le matériel qui l'accompagne, finalement, c'est une activité qui va coûter et qui ne va pas être investie forcément par toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, effectivement, à la base, je crois que le panier moyen, hein, c'est 500 euros par an pour la course à pied, même voire un petit peu moins, mais elle peut être beaucoup plus en termes financiers.
Ouais, aussi, on voit des grands écarts. Ouais.
Voilà. On lui attribue un aura financier particulier. Donc voilà, ça fait partie.
Il suffit d'acheter une montre et on a explosé le budget des 500 euros.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que une des spécificités aussi des trailers, c'est que finalement, une fois qu'ils débutent, en tout cas, c'était les enquêtes qui ont été menées, il y a aussi peu d'arrêts finalement de cette pratique-là. Donc on peut se dire aussi qu'une fois qu'on commence, on prend goût à. Et ça crée aussi cette volonté peut-être d'avoir du matériel, d'être finalement de plus en plus connecté, ou en tout cas d'avoir du matériel qui permet d'aller ou d'atteindre ses objectifs, ses envies, etc. Donc on voit qu'effectivement les paniers augmentent assez rapidement en termes d'investissement, avec l'envie de continuer de poursuivre, voire d'augmenter et développer cette pratique-là pour soi-même.
Dans un endroit de solitude.
Dans un endroit
de la montagne.
Voilà.
Mais avec
mais on a quand même
le groupe
on a pareil.
Avec quand même toutes ces créations de groupes qui se créent pour ne pas aller s'entraîner seul, mais être seul en monde. D'ailleurs, c'est un petit peu cette contradiction. En fait, on voudrait tous avoir la course parfaite, organiser rien que pour soi, être tout seul avec tous les points d'assistance possibles pour que tout ça se passe très bien, mais ne rien payer. Et puis donc ça aussi, c'est une des contradictions aussi du pratiquant.
Bien sûr.
Dans ce que tu dis aussi, c'est intéressant cette histoire de collectif aussi et puis de solitaire, parce que les trailers disent aussi souvent, en tout cas dans les enquêtes qui ont pu être menées, qu'ils viennent aussi au trail par des amis, par des groupes, justement pour une pratique finalement qui après peut être un peu en solitaire ou en tout cas principalement en solitaire, mais il y a aussi cette notion un peu de collectif qui amène à cette pratique-là du trail et de voilà, cette activité.
Donc le trailer est un petit peu évangéliste. Mais si, viens, je te jure, c'est vachement bien.
Ouais, mais vraiment, et les réseaux là aussi jouent un rôle.
Mais pour autant, il va vouloir affronter l'autre.
Ouais.
Il va vouloir pratiquer avec et contre. Donc c'est aussi un paradoxe.
Tu parlais des puristes tout à l'heure, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, mais là, on est vraiment sur cette idée effectivement du contre, l'ami qui devient le, le concurrent finalement.
Donc, viens, mais que si t'es moins fort que moi.
Voilà, c'est à certaines conditions.
Super. Bon, bah, on a déjà dressé un beau portrait du trailer, de l'ambiance, de l'environnement du trail en France. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas présenté ? Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à ce beau paysage ?
Moi, je trouvais que sur ce que tu disais, là, on n'a peut-être pas forcément rebondi, mais sur ce paradoxe-là entre « je pratiquais » entre guillemets « seul » à moindre coût, ça fait vraiment aussi partie de l'activité du paradoxe entre finalement, on s'institutionnalise, j'ai réussi à le dire, et puis en même temps, on veut avoir cette quête de liberté qui finalement, à un moment donné, arrive finalement à ce paradoxe que tu évoquais tout à l'heure et qui est aussi intéressant à soulever, il me semble.
C'est un petit peu l'identité du trail actuellement, en tout cas, dans sa gestion et dans son organisation en termes de compétition, on va dire, mais autre également. C'est-à-dire que ben, y a une fédération, mais il n'y a pas qu'une fédération. Il y a aussi plein d'autres instances qui viennent un petit peu gérer donc les sponsors. Alors, on pense hein, l'organisation des Skyrunning, par exemple. Alors, bon, alors, l'organisation, d'une manière générale, elle est en cours hein, de rénovation, on va dire. Mais ben, y a plusieurs identités, c'est-à-dire qu'on soit en ultra-trail, qu'on soit en trail court, qu'on soit sur du KV, etc. Finalement, on a plusieurs disciplines au sein même d'une grande pratique. Alors, ça peut être une contrainte, effectivement, parce que ben, il faut s'harmoniser parfois quand il est question. Alors, on parle hein, de trail au JO, par exemple. Ben, trail au JO, ça demande de respecter une certaine charte. Un certain nombre de pratiquants et un certain nombre d'affiliations, on va dire, à des fédérations. Donc, ça peut être une contrainte, mais ça peut être un avantage parce que ça permet effectivement d'attirer, et on en revient toujours à ça, de plus en plus de pratiquants avec des motifs d'agir un petit peu différents. Donc voilà, le trail, son identité est entre richesse, contrainte, on ne sait pas trop et... c'est une pratique récente, donc on a hâte de voir ce que ça va donner ces 10 prochaines années pour marquer un petit peu l'histoire, hein, parce que voilà, et l'expliquer un petit peu.
C'est vrai qu'il y a cette vraie contradiction forte qui, moi, à chaque fois, me fait tilt quand je l'entends. On en parlait au tout début où tu disais alors que l'UTMB avait fait un passage en stade 2 de 25 secondes. Le trailer râle un petit peu souvent quand son sport n'est pas présenté dans l'équipe, dans les grands médias. On trouve pas normal que on parle pas de la victoire de un tel ou du record qui a été battu sur le dernier KV. Enfin, on trouve pas ça normal parce que nous on aime bien qu'on parle de notre sport, mais en même temps, on veut pas qu'il y ait trop de monde à un trail. On veut pas participer à un tirage au sort pour participer à un trail. On aimerait bien arriver le matin, prendre son dossard et puis être sûr de pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui sera impossible en fait avec une surmédiatisation ou une suraugmentation du nombre de pratiquants. Donc il y a cette vraie contradiction. En fait.
Mm-hmm. Ça renvoie à ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire cette volonté de spectacle sportif. Et ce spectacle sportif, il peut être connu uniquement à travers les médias. Parce que c'est lui, c'est ce spectacle sportif qui va finalement présager peut-être d'un futur sur la discipline, en tout cas qui va continuer de faire rêver les gens. Donc ça, c'est quelque chose que le pratiquant a envie de rêver et donc de s'identifier un petit peu. Et puis, Il y a quand même la pratique. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. La pratique qui reste compétitive ou de loisir et qui va s'orienter vers plus de nature, vers plus de paysages, vers plus de solitude, vers une pratique qui renvoie un petit peu à cette double personnalité qu'on aurait, je pense, en chacun de nous, quelque part. Donc, rechercher quelque chose de différent, mais aussi s'identifier à quelque chose de commun.
Ouais, il y a une forme de volonté d'autonomie qui s'explique aussi par l'histoire de cette pratique et des pratiques de pleine nature. Et puis en même temps, la volonté aussi de légitimité, tu en parlais tout à l'heure, la volonté de reconnaissance aussi, d'institutionnalisation. Et puis dans ces événements, il y a aussi cette question de sécurité qui reste aussi. Enfin, il y a aussi ces questions-là qui font que c'est aussi une contrainte d'avoir de plus en plus de monde et d'avoir aussi cette forte médiatisation. Pour les organisateurs notamment. Donc il y a aussi dans ces contraintes-là et cette identité propre au trail des choses intéressantes à étudier.
Et en tout cas, on souhaite bien du courage à tous ces organisateurs qui vont devoir trancher sur le nombre de participants et puis c'est chouette de voir tout ce monde du trail qui évolue comme ça chaque année, qui se dynamise. Enfin, personnellement, moi ça me fascine de voir tout ça qui se met en place, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Je trouve que ça fait une belle conclusion à ce premier épisode ensemble, et on aura l'occasion d'en partager d'autres. Donc en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, regardez, il y en a peut-être déjà d'autres. Merci beaucoup Laure et Anna.
Merci François.
Allez, à bientôt.
À très vite.
À bientôt.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.